Quel rôle joue donc Judas dans ce drame de la Passion et que pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Il y a de nombreuses hypothèses sur ce rôle de Judas. La première et l'hypothèse la plus classique, la plus traditionnelle, c'est simplement de dire que Judas est un authentique salaud, c'est-à-dire que c'est l'image même du méchant, c'est l'image même du traître, du fourbe et de celui qui est le pécheur par excellence et pour lequel presque tout le monde s'accorde qu'il n'y a pas de salut possible. Et en plus, il l'a fait pour de l'argent, pour 30 pièces d'argent. Il est donc cet exemple de méchanceté, de fourberie, celui qui va faire ce faux baiser de la traîtrise, et en plus il est faible, il n'a pas de remords, il n'a pas de repentance, plutôt il a un remords, en plus il finira par se pendre à la fin de l'histoire. Et finalement, dans cette théologie classique, tout est bien et tout est juste et moral, puisque cette image même de la méchanceté qui incarne tout le mal de l'humanité, eh bien Jésus dit qu'il est perdu en quelque sorte, puisqu'il dit qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né, donc tout va bien, le méchant sera puni et le mal est condamné. Mais le problème, c'est qu'en faire? En fait, peu de choses. Et ce type de discours ne nous touche pas tellement. Ou alors, au mieux, il nous rassure parce qu'on se dit que Judas est quand même tellement méchant que nous ne sommes pas aussi méchants. Et donc, finalement, on est un peu rassuré parce que on se dit qu'on n'a aucune chance d'être comparé à lui. Cela dit, le problème du salut de Judas n'est pas si simple. Judas, finalement, sera-t-il sauvé ou sera-t-il condamné? Les paroles de l'Évangile sont dures et les paroles du Christ laissent à penser que Judas sera perdu. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que, et si Judas s'était repenti, est-ce que par hasard il n'aurait pas pu racheter sa vie? Est-ce qu'il n'aurait pas pu être sauvé? C'est quand même ce qu'on enseigne et on a des exemples de cela. Paul qui tuait les chrétiens, qui a lapidé Étienne, Paul se repent et puis il devient un des grands apôtres. Paul évidemment sera sauvé. Donc Judas aurait pu changer sa vision des choses, regretter et finalement devenir un grand apôtre du christianisme. Qu'est-ce qui l'aurait empêché? Je crois que l'ensemble de l'Évangile nous pousse à croire que Judas aurait pu se repentir et être sauvé. Judas, certes, va regretter son geste, mais le remords n'est pas le repentir. Il ne suffit pas de regretter. Judas va regretter, mais il va se suicider. Et regretter, ce n'est pas se repentir. Se repentir, c'est changer d'attitude. Et c'est vouloir agir autrement. Et Judas ne fera pas cela. Alors peut-être que effectivement le problème de Judas, ce n'est pas tellement sa trahison, mais c'est son suicide. Ou plutôt son incapacité à se repentir. Parce que son geste de regret, je dirais, après la mort de Jésus, montre de sa part qu'il était totalement imperméable à l'idée d'un pardon possible. C'est-à-dire que Judas n'a pas cru à la grâce, il n'a pas cru au pardon. Et c'est peut-être ça qui l'a condamné, plus que le fait d'avoir trahi son ami. On fait ce qu'on peut. Mais peut-être aussi que le fait qu'il n'ait pas cru au pardon est fondamentalement lié au fait qu'il n'ait pas cru dans la prédication de Jésus. Parce que finalement, c'est peut-être ça le plus grave. Et peut-être que là est la solution de ces paroles dures de Jésus en disant qu'il eût mieux valu qu'il ne soit pas né. C'est que si Judas met Jésus à mort, la question, ce n'est pas Jésus en tant que personne, c'est le rejet de son message. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui ne croit pas dans l'Évangile, celui qui ne croit pas au pardon, à la grâce, à la repentance et à l'amour de Dieu, eh bien celui-là, il vaut mieux qu'il ne soit pas né. Oula, la parole est dure, parce que d'une certaine manière déjà, elle est très compliquée, parce que cela montre que la vie physique n'est pas forcément au-dessus de tout. En tout cas, dans ces paroles de Jésus, comment peut-on dire de quelqu'un qu'il y aurait mieux valu qu'il ne vive pas ? C'est d'une dureté incroyable. Aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à dire que la vie physique est mieux que tout, et qu'elle est sacrée en quelque sorte. Pour Jésus, la vie physique n'est pas sacrée, elle n'est pas au-dessus de tout, elle n'a de sens que si elle accepte le Christ. Alors, heureusement, il y a des tas de non-chrétiens dont la vie est justifiée, mais accepter le Christ, ça veut dire accepter son discours, qui lui n'est pas une exclusivité. C'est-à-dire que la vie physique n'a de sens que si on accepte l'idée de l'amour, du pardon et de la grâce. Et si on ne croit pas dans l'amour, ni dans le pardon, ni dans la grâce, eh bien, notre vie ne vaut pas grand-chose. Et donc, effectivement, je pense que c'est ça le vrai problème de Judas, c'est cette espèce de refus fondamental de l'amour, du pardon et de la grâce, et ça, ça le condamne. Ça revient à ce que dit à un autre endroit Jésus, à propos du blasphème contre le Saint-Esprit, quand il dit « tout péché sera pardonné, sauf un, le blasphème contre l'Esprit », c'est-à-dire, en fait, le rejet même du pardon, de la grâce et de l'Esprit, et ça empêche de vivre. Alors, cela dit, de tout temps, on a cherché à excuser Judas, parce que, je vous ai dit, son rôle n'est pas simple, et il semble, dans certains passages, que finalement Judas soit le pauvre bougre à qui on colle un rôle dans lequel il n'est pas pour grand-chose, c'est-à-dire que Judas serait comme un objet dans la main de Dieu pour accomplir le destin de Jésus. En effet, c'est une autre lecture qui, curieusement, est tout aussi traditionnelle que la première, bien qu'elle la contredise, à mon avis. Donc le plan de Dieu, c'était que Jésus soit livré. Il fallait bien que quelqu'un livre Jésus pour qu'il meure sur la croix. Eh bien voilà, c'est Judas. Autrement dit, Judas est comme une sorte de marionnette téléguidée par Dieu pour que le destin de Jésus s'accomplisse. Bon, mais si c'est ça, alors il y est pour rien, le pauvre type. Et à ce moment-là, pourquoi le punir ? Et pourquoi dire qu'il eût mieux valu qu'il ne soit pas né ? Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, ça me semble illogique, en quelque sorte. C'est la vision de l'évangile de Jean. Dans Jean, Judas n'y est absolument pour rien. C'est Jésus qui prend le morceau de pain et qui lui donne à manger de force, en quelque sorte, et on nous dit « aussitôt, Satan entra en lui ». Et puis à ce moment-là, Jésus lui dit « ce que tu as à faire, fais-le vite ». Donc c'est Jésus qui le pousse. Dans les autres évangiles, ça n'est pas comme ça. Dans Luc, Satan entre en lui avant le signe de Jésus, et Jésus ne fait que montrer aux autres qu'il sait, tout à fait différent. Alors, j'ai Judas comme objet dans la main de Dieu, ça je n'y crois pas. Je crois qu'il est fondamentalement responsable de ses actes. Il n'y avait pas besoin que ce soit Judas qui trahisse Jésus pour que Jésus meure. Les pharisiens cherchaient par tous les moyens de tuer Jésus, et si ça n'avait pas été par Judas, ils en auraient trouvé un autre, un qui n'avait aucun rapport avec Jésus. Il était sans arrêt au temple en train de prêcher, il pouvait mettre la main sur lui n'importe quand, et donc Judas n'était pas la seule option, et il n'y avait donc aucune nécessité que ce soit Judas qui soit le traître. Et par conséquent, je ne crois pas que Judas soit l'objet dans la main de Dieu, et je ne crois pas que Dieu puisse dépêcher un meurtrier. Ce n'est pas possible. Alors, on touche là à l'ambiguïté de la théologie calvinienne, vous savez, de la prédestination. Mais même chez Calvin, Calvin montre que même le meurtrier, et même si en accomplissant son meurtre, il accomplit la volonté de Dieu, il n'en reste pas moins entièrement responsable de ses actes. Et je le crois. Donc, voyez-vous, ces solutions ne permettent pas de bien tout expliquer, parce que reste le problème de ces paroles de la scène, quand Jésus dit « L'un de vous me trahira », bon, les disciples semblent ne pas comprendre, et chacun dit « Mais est-ce moi, Seigneur, est-ce moi, est-ce moi ?» Ça, c'est bizarre. Celui qui trahit et qui avait le projet de le faire, il doit bien le savoir. Et celui qui ne trahit pas Jésus, il sait que ce n'est pas lui le traître. Pourquoi les disciples disent-ils chacun « Est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi ?» Alors, les théologiens classiques ont toujours réponse à tout. Et alors, ils nous ont sorti la chose suivante. Ce « est-ce moi » dit par chacun des disciples, même ceux qui n'étaient pas les traîtres, sont là pour nous pousser à l'introspection. Parce que, en effet, ces disciples, ce sont nous. Et donc, chacun de nous devons nous dire, « Mais finalement, n'est-ce pas moi un peu Judas, le traître ? Et en quoi suis-je moi Judas ?» Et on continue dans cette prédication traditionnelle à nous dire, « Réfléchissez pour savoir que, en fait, vous êtes tous un peu responsables de la mort du Christ. C'est moi qui crucifie le Christ. C'est ça qu'on m'a enseigné, moi, quand j'étais petit. Eh bien, je vais vous dire non. J'en ai assez qu'on me culpabilise. Ce n'est pas moi qui ai crucifié le Christ. Ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit défendu du jardin d'Éden. Ce n'est pas moi qui ai brisé le vase de Soisson. Mais c'est la mode actuelle. Il faut demander pardon et on se sent coupable de tout. Alors on demande pardon pour l'Inquisition, pour les croisades. Les protestants accusent les catholiques de la Saint-Barthélemy et ils se sentent coupables de la mort de Michel Servet. Mais il y en a assez. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je me sens déjà assez coupable de tant de choses que je n'ai pas besoin qu'on me charge encore d'autres choses. Alors la bonne nouvelle, ce n'est certainement pas d'aller dire aux gens le dimanche « Vous êtes coupables de vos fautes, et en plus de celles d'Adam, et de celles de Judas, et de celles de Calvin et des autres. » Nous sommes sous la grâce. Nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés. Ayez un cœur reconnaissant, libre et joyeux. Donc non, finalement, je ne parviens pas, malgré mes efforts, à rentrer dans ces discours classiques concernant la mort de Jésus et le rôle de Judas dans cette affaire. Pourtant, je fais des efforts, j'essaye de tout mon cœur, mais je suis fondamentalement rétif à cette théologie qui est certes simple et rationnelle, mais qui pour moi n'est qu'un mélange de mauvaises nouvelles culpabilisatrices. Ça n'est pas possible. Je crois que Judas est bien coupable, certes. Je crois que Jésus le désigne au moment du dernier repas et il montre seulement qu'il sait, qu'il a compris que c'est lui qui le trahit. Il montre aux autres qu'il sait que c'est lui et qu'il accepte le sort qui lui est promis. Et il montre qu'il ne meurt pas par faiblesse. « Ma vie, dit-il, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne ». Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mais en même temps, c'est compliqué, je vous l'ai dit, ça ne rend pas compte de tous les récits, parce que dans Jean, et j'arrive pas à m'en sortir, c'est bien Jésus qui désigne Judas. Et il semble que Judas n'ait pas eu d'idée préméditée. Et dans Jean, c'est bien Jésus qui pousse Judas à agir et qui lui dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Comment peut-on comprendre cela? Alors il y a du coup une solution extrême qui est devenue un petit peu à la mode aujourd'hui parce que ça fait frémir les vieilles bigotes et ça les change de leurs idées traditionnelles. Et on nous sort du Saint Judas, voilà. Et on nous dit, voilà, idée originale, pas tant que ça puisqu'elle traîne quand même depuis le IIe siècle, il fallait que quelqu'un se sacrifie pour accomplir le plan de Dieu. Et donc il fallait que quelqu'un fasse en sorte que Jésus meure pour qu'il soit trahi. Alors Jésus dit à ses disciples, il faut que l'un de vous accepte de jouer ce rôle ingrat en quelque sorte. Mais aucun des disciples n'a envie parce qu'ils aiment tous Jésus de tout leur cœur. Alors chacun dit, mais est-ce moi qui dois faire ça, ou moi? Et Jésus dit, je vais vous dire, et il en choisit un. Ou alors, soit il choisit Judas, d'après Jean, ou alors dans les autres évangiles, c'est Judas qui dit, Seigneur, moi je suis prêt à me dévouer, à jouer ce rôle ingrat de celui qui sera considéré pendant des siècles comme le traître. Alors, il faut bien que quelqu'un accepte de se dévouer, qu'il devienne martyr, pour que Jésus meure justement au moment de Pâques. Alors Judas le fait, et ça nous donne cette tradition du Saint Judas. C'est ce qui est expliqué dans un pseudo-évangile selon Judas, vous le savez, un évangile apocryphe. Judas se serait sacrifié, aurait accepté de jouer le rôle du méchant, mais pour la bonne cause. Et l'évangile de Judas va encore plus loin en disant que, puisqu'il est dans une théologie, à mon avis, odieuse et gnostique, un peu dualiste, qui pense que la matière est mauvaise et que l'esprit est bon, et que par conséquent, Judas sera celui qui va aider Jésus à quitter ce corps de souffrance, de péché et de mort pour accéder à l'esprit qui est lumineux et universel. Et donc, Judas, finalement, fait passer de la ténèbre à la lumière, et Judas serait en quelque sorte plus christique que les autres, parce qu'il aura sacrifié non seulement sa vie, mais aussi sa réputation. Ça a été développé par certains auteurs aujourd'hui pour faire, je vous l'ai dit, frémir les bons chrétiens. Qu'en dire ? Ça peut avoir une valeur morale, l'idée de se sacrifier, et même d'être prêt à prendre le risque d'être mal perçu, mais de faire ce que l'on a à faire au risque de sa réputation, accepter de faire sa mission au prix de l'image qu'ont les autres de vous, tout ça c'est beau. Mais bon, ça n'est pas crédible, je vais vous le dire. C'est pas crédible et c'est à mon avis peu intéressant. C'est en tout cas à mon avis incohérent avec la tradition évangélique. Il n'y a pas dans l'évangile de dualisme. Et dans l'évangile, la mort du Christ n'est pas une bonne chose, c'est une catastrophe. Jésus est venu prêcher la parole et les hommes l'ont tué. C'est simplement le mal. Certes, Dieu va surmonter ce mal par la résurrection, mais qu'on ne nous dise pas que la mort de Jésus soit une chose formidable et qu'il fallait que quelqu'un aide Jésus à mourir. C'est une horreur. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Jésus rende Judas méchant non plus, comme le dit l'évangile de Jean où le morceau de pain lui fait mettre Satan en lui. Je pense que Judas voulait effectivement trahir Jésus. Bon, que Jésus s'en rend compte, il montre qu'il assume. Et il montre qu'il le sait, je vous l'ai dit. Quant aux paroles de Jésus qui sont à Judas, « Ce que tu as à faire, fais-le vite », eh bien, je pense que Jésus, d'une certaine manière, pousse Judas, non pas à le trahir, mais le pousse à le trahir à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que Judas voulait trahir Jésus et que finalement, Jésus arrive à un moment donné dans sa vie où il se dit, de toute façon, je sais que ça va mal finir, je sais que Judas est en train de manigancer quelque chose, et Jésus, au moment de Pâques, se dit, je suis prêt. Et à ce moment-là, certes, il va peut-être un peu accélérer les choses en mettant Judas devant le fait accompli, donc Judas n'avait plus le choix, soit il se repentait, possible, soit il ne pouvait qu'accomplir immédiatement sa mission. Et donc Jésus n'a plus le choix, et il sait que ça va se passer, Jésus n'a plus le choix, il sait que ça va se passer, et Jésus, en quelque sorte, programme non pas sa mort, mais la date de sa mort. Et c'est peut-être grâce à ça que Jésus va mourir à Pâques, ce qui est bien, c'est symbolique, c'est merveilleux au moment du sacrifice de l'agneau et des enfants premiers-nés et tout ça. Et donc finalement, Jésus, en quelque sorte, va pousser Judas pour qu'il agisse là, afin qu'il meure le jour de Pâques. Mais alors, reprenons. Ce rôle de Judas, finalement, quelle est la solution ? Il y a des solutions intermédiaires entre Jésus authentique méchant et Judas authentique méchant et Judas saint. Je pense qu'il y a des solutions plus rationnelles. La plus courante des interprétations, c'est pas idiot, c'est de dire... C'est celle que l'on dit aujourd'hui dans les livres de théologie de vulgarisation. On nous dit que Judas n'a pas toujours été méchant, qu'au début il était sincère, sinon pourquoi Jésus l'aurait-il choisi, effectivement. Mais pourquoi serait-il devenu méchant? Et là, on nous explique que c'est par déception. C'est-à-dire que Judas était... ce que l'on appelle, aurait pu être ce qu'on appelle un sicaire, ce qui expliquerait son nom, Judas Iscariote. Ça pourrait dire Judas le sicaire. Et les sicaires, c'était des juifs qui prônaient la révolte armée contre l'envahisseur romain. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était une action violente contre l'occupant, comme les résistants, si vous voulez, actifs pendant la guerre. Et donc, ils portaient une épée, un glaive. Et donc Judas a pu être un de ces activistes qui a cru en Jésus. Et il s'est dit, lui, il va diriger la révolte et l'opposition contre Rome. Et Judas croyait que Jésus allait fédérer la révolution armée. Et voyant que Jésus refuse toute action violente et que Jésus même refuse tout engagement politique, en disant « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César qu'à César », Judas s'estime trompé, il s'estime déçu, et il se dit que celui en qui il avait cru, eh bien, n'est pas le Messie. Et devant cette déception terrible, il décide de se débarrasser de Jésus. C'est ce que l'on nous dit, c'est assez intéressant, c'est une leçon pour nous, en tout cas, en ce sens que l'erreur de Judas aurait été, en fait, au départ, une erreur théologique. C'est-à-dire qu'il avait une mauvaise attente à l'égard de Jésus. Et cela nous montre que si on se trompe d'espérance, eh bien, cela peut nous amener à nous éloigner gravement du Christ. Ça, je le vois régulièrement, chez des gens qui croyaient que Dieu pouvaient intervenir matériellement dans le monde, et ils ont prié pour que leur enfant guérisse, et leur enfant est mort. Et ils disent, ce Dieu-là, qu'on ne m'en parle plus jamais. Et j'ai vu des gens comme ça refuser de mettre les pieds dans les églises, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient cru dans ce Dieu qui aurait pu guérir leur enfant et qu'il avait laissé mourir. Et donc, voyez-vous, une fausse espérance peut amener à rejeter le Christ d'une façon extrêmement violente, et aujourd'hui encore. Donc quand on nous dit « ne faisons pas de théologie, la foi du charbonnier, c'est la plus belle des choses », je dis non, la foi du charbonnier, ça peut être la foi de Judas qui conduit à la mort du Christ. Donc faisons attention à ne pas nous tromper d'espérance, à ne pas nous tromper d'attente vis-à-vis de Dieu. Cela peut amener à nous couper gravement de Jésus. Enfin, encore une solution, plausible, mais plus rare. Je ne vous cache pas que c'est ma préférée. La dernière solution est intéressante. Ce serait d'essayer de sauver les deux aspects de Judas et de dire Judas, il était ni totalement mauvais ni totalement bon, mais il était finalement, comme nous tous, un mélange de bon et de moins bon, et que, en fait, Judas pouvait être à la fois gentil, mais qu'il ait fait un acte mauvais. Alors voilà comment on y arrive. Ce serait de dire, Judas a trahi, certes, mais par amour. Je vous ai dit, on peut penser que Judas était un sicaire, c'est-à-dire qu'il avait cette espérance que Jésus serait un messie spectaculaire qui viendrait se révéler au monde avec des légions d'anges et que Dieu viendrait avec ses trompettes rétablir la justice dans le monde. Et donc Judas, il croit en Jésus. Et il se dit, c'est le Messie, c'est le Maître, c'est le Sauveur. Il va faire venir le salut de Dieu dans le monde. Alors il attend, et puis Jésus, il est sympathique, mais bon, il dit, aimez-vous les uns les autres et tout ça. Mais en attendant, le royaume de Dieu tarde à venir. Et en attendant, toujours pas de manifestation spectaculaire de Dieu. Alors Judas, qui attend autre chose, trouve que Jésus est trop mou. Alors il se dit, je vais le pousser à se révéler. Il faut confronter Jésus, en quelque sorte, au mal pour le forcer à qu'il prouve au monde qu'il est bien le Messie et le Sauveur de l'humanité. Alors il est sincère et parce qu'il croit que Jésus va s'en sortir, alors il va mettre Jésus de force dans cette situation extrême et il va donc se dire le seul moyen, c'est de le confronter au mal. Alors il va livrer Jésus aux soldats, mais parce qu'il croit que Jésus va se manifester. Et il va embrasser Jésus, et son baiser n'est pas un baiser de traître, c'est le baiser de son frère qui a confiance dans son Sauveur. Et Jésus va donc être emmené par les soldats, Jésus va être crucifié, Judas attend que le ciel s'ouvre, que des légions d'anges viennent libérer le Messie. Mais là, rien ne se passe. Pas de légion d'anges, pas le ciel ne s'ouvre pas. Jésus meurt comme un gueux sur la croix et Judas est désespéré. Et il se dit, celui en qui j'ai cru que c'était le Messie, j'ai cru que Dieu viendrait le libérer et il n'a rien fait. Et il se rend compte que non seulement il s'est trompé d'espérance, mais qu'en plus, il a tué son meilleur ami, et il se suicide de désespoir. Ça, c'est une hypothèse possible. Et cela montrerait, en tout cas, dans ce cas, que l'erreur de Judas aurait été de vouloir mettre Dieu à l'épreuve. L'erreur, dans ce cas, ça aurait été de penser qu'il faudrait forcer Dieu à agir. Et ça, c'est une faute théologique. Faute théologique grave de vouloir que Dieu agisse à notre place. Les psychiatres nous disent même que c'est un symptôme névrotique. Et certains pédopsychiatres m'ont dit que c'est assez fréquent chez les jeunes qui ne vont pas bien aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent le symptôme de l'ordalie. L'ordalie, vous savez, c'est dans l'Antiquité, l'idée de s'en remettre au jugement de Dieu pour savoir si quelqu'un mérite de vivre. Et il paraît qu'on trouve chez des jeunes qui vont mal, justement, cette façon de se mettre volontairement en danger et en se disant, si j'ai survécu à ce danger auquel je me suis exposé, c'est que cela prouve que je mérite de vivre, en quelque sorte. Et que donc ce test, en quelque sorte, qui pousse Dieu, qui pousserait Dieu à agir, qui pousserait Dieu à prouver qu'il m'aime et que j'ai le droit de vivre parce que Dieu me sauve. Bon, alors ne tombez pas là-dedans, c'est considéré comme un symptôme psychotique. Donc si vous avez cette tendance, allez voir non pas un pasteur, mais un médecin. C'est assez dangereux, mais en tout cas, c'est l'une des tentations du Christ. Quand le diable lui soumet dans l'idée de se dire « Jette-toi du sommet du temple en bas pour que Dieu envoie ses anges pour te ramasser. » Et il se dit après tout « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pourrais pousser Dieu à agir et voir si effectivement il agit. » Mais Jésus refuse cela et il dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Jésus va refuser cette tentation. Mais en fait, Judas va tomber dedans les deux pieds joints. Il va prétendre vouloir pousser Dieu à agir en se disant « Moi, je peux laisser aller le monde et Dieu ramassera les morceaux. » C'est extrêmement dangereux. Et tiens, puisque je parle des tentations du Christ, certes, là, Il y en a une qui est clairement exprimée, mais finalement, les autres solutions concernant Judas, dont je ne sais pas quelle est la bonne, et peut-être qu'elles sont, en tout cas, elles sont toutes intéressantes théologiquement, et aucune n'efface une autre, les autres solutions illustrent parfaitement les autres tentations du Christ. La plus classique, ce Judas méchant qui trahit Jésus par amour de l'argent, eh bien, c'est exactement la première des tentations du Christ, c'est-à-dire enfin, l'une des tentations quand le diable lui dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la puissance, l'argent, les possessions et tous les royaumes ». C'est effectivement la tentation fondamentale de savoir devant quoi on se prosterne et qu'est-ce que l'on adore. Est-ce qu'on adore l'Évangile, Jésus ? Ou est-ce qu'on adore l'argent, le pouvoir et le matérialisme et sa propre gloire? Si on choisit l'argent et le pouvoir, d'une certaine manière, on tue Jésus. C'est-à-dire que si on choisit de mettre sa vie au service de sa propre gloire, de son propre pouvoir et de sa propre richesse matérielle, eh bien, on tue son propre idéal et on tue sa propre possibilité de vivre en chrétien, ça je le crois. Donc c'est vraiment une des tentations. Et l'autre solution, vous savez, je vous disais, le Judas qui attendait un acte politique, c'est-à-dire une intervention matérielle de Dieu dans le monde, ça aussi c'est l'erreur d'attendre de Dieu ce qu'il n'offre pas, de croire que Dieu pourrait intervenir matériellement dans le monde, comme Jésus qui est tenté, et le diable lui dit « si tu crois en Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains, et elles deviendront des pains ». Mais Jésus dit « non, 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 Dieu il n'est pas là pour ça, il n'est pas là pour des choses matérielles et concrètes dans le monde, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et une fois de plus, la tentation de croire que Dieu devrait intervenir matériellement à tout bout de champ dans le monde conduit à, je dirais, la perte de la foi et à l'éviction de Jésus. Et donc finalement, vous voyez, toutes ces solutions sur Judas que je vous ai présentées nous enseignent toutes quelque chose sur nos erreurs, sur ces erreurs qui nous menacent. Et Jésus, lui, il va devenir le Christ en résistant à chacune de ces trois tentations, en évitant les pièges théologiques. Et il va mourir à l'autre bout de l'Évangile par Judas, qui, lui, va tomber dans les trois pièges. Parce que c'est vouloir un Dieu qui satisferait notre propre narcissisme, un Dieu qui serait là pour nous faire plaisir, un Dieu pour nous, comme nous en rêvons, mais un Dieu qui n'est pas Dieu, mais un Dieu qui ne serait que la projection de notre propre désir un peu infantile de toute puissance. Et en rester dans ces névroses infantiles, au niveau de la foi, c'est extrêmement grave, parce que non seulement ça tue le Christ, mais ça peut aussi nous tuer, comme Judas qui en meurt lui-même. Et le Dieu qui nous sauve, c'est celui de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas nous qui le tuons, ce Jésus, c'est en tout cas en nous qu'il peut vivre, si nous savons l'accepter tel qu'il est, et si nous savons croire dans un Dieu comme il est, c'est-à-dire comme un Dieu qui nous invite à sortir de nous-mêmes, de nos propres désirs, pour aller dans le monde, pour servir le monde, pour donner sa vie pour le monde, et pour donner de la joie au monde. Amen.